CFM, le mag. Tous les jours, 12h, 12h30. La vie du Villefranchois.
Lundi.
Guy Peset, bonjour.
Bonjour.
Alors si on avait à faire un point sur cette 14e édition des rencontres à la campagne, quelles sont les projections, les séances qui ont particulièrement marqué cette édition? Et il est question de rencontres aussi, quelles sont les rencontres fortes que vous avez pu faire?
Eh bien, c'est des rencontres assez sereines, tiens, je pourrais dire ça sans jeu de mots. Il y a eu de grands moments, je pense en particulier à Touzeau Larzac, bien sûr, avec, outre la qualité du documentaire, de ce qu'il apprend aux jeunes générations, tout ce qu'il rappelle à d'autres, la présence émouvante des acteurs, quoi, des personnages qui ont participé à cette histoire-là.
Beaucoup d'émotions dans la salle, hein, à l'issue de la projection, c'était impressionnant.
Oui, mais c'est un très bon film, comme ce que j'avais dit d'Ellipe sur le travail qu'il avait fait, Rouault, sur l'Ellipe. Beaucoup d'émotions aussi pour le film d'Yves Comon avec Sandrine Kéberlin, un film grave mais très très particulier avec des choix esthétiques qu'il a très très bien expliqué. Bon, Comon c'est un pédagogue vraiment génial, il donne on a l'impression de tout comprendre. Et le film donc L'Oiseau est quand même un film qui vraiment, moi je crois, va marquer cette année par sa qualité. Et c'est, pour lui, c'est un changement dans sa carrière, je crois aussi. Donc quelqu'un qui est venu, alors dès les premières rencontres pour ses courts-métrages, pour tous ses films, et qui a travaillé soit avec nous. Il y a eu des grands moments de rencontres aussi autour des documentaires. Des documentaires sur la vie des pêcheurs, des marins, surtout des marins en Bretagne. Véronique Pont-d'Aven était là et a présenté ses films. Et ce sont des rencontres où il y a eu beaucoup de rencontres, beaucoup d'échanges. Les gens sont restés sur le festival. Il a fait beau, donc vraiment très positif.
La galerie associative La Tour de Montsalès accueille l'exposition d'Édouard Languillon. Pour nous en parler, nous accueillons Daniel Lefranc. Bonjour Daniel.
Bonjour.
Nous sommes donc au deuxième étage de la tour et ici on est devant des œuvres qui présentent plus des œuvres peintes par rapport à ce que l'on a vu avant, qui étaient plus des œuvres mélangeant plusieurs techniques de collage avec plusieurs matériaux.
Ici, dans cette... Oui, on est un peu essoufflé, mais content d'être dans cette très belle salle. Et nous avons sous les yeux là des œuvres qui ont été fabriquées, on peut dire, par la déstructuration de peinture. C'est-à-dire que Languillon était un personnage très exigeant, ne choisissait de conserver ce qu'il estimait être intéressant. Ce qui fait que là, nous avons des toiles qui ont été recréées avec des lacérations de toiles anciennes, c'est-à-dire le mot lacération convient mal, mais des découpages de lanières dans des toiles anciennes. Et il s'agit donc d'une restructuration à partir de ces bandes de toiles. Dominante colorée dans les bleus, c'est ce qui le caractérise quand même, il aime beaucoup les bleus. Il y a une œuvre dans cette pièce qui fait exception, que ce sont des collages. C'est une œuvre qui est faite avec des encres et que je connais bien puisqu'elle m'appartient.
D'accord, alors ben, on va en profiter pour l'expliquer un peu plus. C'est le terme des abysses, non? C'est,
oui.
Voilà.
Ah,
ouais. C'est une thématique qui revient souvent dans l'œuvre d'Édouard Languillon.
Alors, puisque vous abordez les thèmes, les thématiques d'Édouard, il y a une anecdote que je ne peux pas passer sous silence. L'ayant aidé en Ardèche à déménager des meubles, nous avons rencontré tout à fait par hasard Hubert Reeve, l'astrophysicien. Et Édouard connaissait toute l'œuvre écrite d'Hubert Reeve, et on n'a pas pu s'empêcher d'aller lui tenir un petit discours. Et de cette période, Édouard a peint des toiles qui se trouvent à l'étage supérieur, sur les astres, sur ce qu'il appelle les archipels aussi. Mais en ce moment, nous nous trouvons donc devant cette toile bleue où ce sont des bleus, des qualités de bleu extrêmement intenses qui nous font visiter un peu les fonds des océans.
La vie des pays au son de la pop et du rock en Aveyron. La vie des pays. CFM.
Gérard, mon chéri, et bonjour, madame. Mais vous pouvez être là, comment
monsieur,
madame,
ce sont les enfants.
Ah, tout est clair.
CFM à Villefranche, 90.2, 90.2.
Mardi,
le préau présente
Florence Boudou.
Et salut l'artiste, tu fais quoi?
Alors moi je suis potière accessoirement, puisque c'est pas mon seul métier. Je suis aussi éducatrice spécialisée, mais donc je fabrique des poteries que je vends occasionnellement sur quelques marchés dans l'année. Voilà. Sinon, je donne aussi des cours de poterie où j'apprends aux gens la technique du tournage sur des cours de 2 heures. Et en général, les gens y trouvent leur compte.
Qu'est-ce qui nourrit ton art ?
Qu'est-ce qui nourrit mon art ? Ben, je pense que c'est l'envie de travailler de mes mains, en fait. Je suis quelqu'un qui est très manuel et j'ai toujours eu envie de travailler de mes mains. J'ai un métier qui est plutôt tourné vers les réflexions un peu prises de tête et j'ai toujours aimé travailler l'artisanat, que ce soit la calligraphie, que ce soit la poterie, que ce soit le crochet d'art, j'ai le travail du bois aussi. Donc j'aime travailler tout ce qui est manuel. Et je suis venue à la poterie un petit peu par hasard au cours d'une année sabbatique où je suis partie à la rencontre du coup de cœur artisanal, à la rencontre des artisans tout autour de la France.
Et t'en es où de ton cheminement ?
Alors, mon parcours artiste, moi je me considère pas comme une artiste déjà, je pense que je suis plutôt un artisan qu'un artiste. J'ai toujours pensé que je n'avais pas de goût, que je n'avais pas cet aspect artistique en moi. Alors, c'est vrai que je fabrique des pièces qui sont relativement basiques. La dimension de l'art dans le travail de la poterie, à part si c'était pour sculpter des pièces et puis fabriquer des choses qui viendraient directement de mon imagination, là pour moi ce sont des artistes. Moi, je me considère plutôt comme un artisan de la terre.
T'as l'impression de poursuivre ton rêve d'enfant ?
Alors, mon rêve d'enfant, peut-être dans un sens, mais pas forcément par rapport à la poterie, plutôt par rapport au travail manuel et au travail de mes mains. Ça, c'est quelque chose que j'ai toujours eu en tête. Mon rêve, ça aurait été de vivre dans un village d'artisans et de vivre un peu en autarcie, utiliser ce travail manuel et faire des échanges entre les uns et les autres. Ça, c'était un rêve d'enfant. Alors, j'ai commencé par maîtriser une technique qui est celle de la poterie. Peut-être que le reste viendra.
T'as pas vu Charlie ?
Charlie, où est passé Charlie ? Charlie est assez fuyant, hein, parce que on le rencontre jamais. Moi, personnellement non plus, je l'ai jamais rencontré. C'est peut-être Charlie se cache quelque part en haut du clocher de la collégiale, qui sait ?
Monique Fréjaville, coprésidente des espaces culturels Villefranchois, et Justine Morel sont les invités de cette édition. Et il est question de la saison 2010-2011-2012. Voilà, on les fait toutes d'un coup. Présentation ce vendredi au Théâtre Municipal de Villefranche de Rouergue à 20h30. Mise en scène par Philippe Juvéneton pour nous présenter toute la programmation. Et ça s'appelle « Vue à la télé ». C'est facile de sensibiliser ce jeune public au théâtre. Vous avez l'impression que ça change un petit peu parce que vous faites un gros gros travail, hein. Justine, peut-être toi tu as un regard
parole
aussi
pour les jeunes.
Non, c'est pas si facile et c'est d'ailleurs une des actions qui nous tient à cœur. Donc on réfléchit sans cesse aux façons dont on peut améliorer la communication et la médiation.
Offrir des écrans plats.
Voilà.
Des consoles de jeux.
Oui. On n'y avait pas pensé, mais on va y réfléchir. Non, c'est pas si évident que ça, mais on ressent quand même un intérêt de la part des équipes enseignantes qui, même si elles sont pas toujours au rendez-vous à la période à laquelle on présente nous les spectacles, mais parce que c'est en fin d'année et que c'est une période chargée pour tout le monde, nous sollicitent dès la rentrée. Donc on a pas mal de demandes pour ces séances au théâtre. Là où c'est plus difficile, c'est hors du cadre scolaire. Donc là on touche les parents qui seraient susceptibles d'emmener leurs enfants. Donc là on essaie, ça a fonctionné l'année dernière, on espère que ça va continuer cette année, par le biais de structures comme les centres sociaux, les centres aérés, les associations de soutien scolaire, etc., de toucher un petit peu des enfants, mais hors cadre scolaire. Là où c'est encore plus difficile, c'est de toucher les ados et les lycéens et les inciter à venir en soirée, d'autant plus quand les spectacles sont le week-end. Ça va se faire petit à petit, mais il est prévu qu'on rencontre les classes des lycées là prochainement. Donc on va essayer de leur proposer des partenariats, comme on le fait avec les acteurs culturels, de façon à ce qu'ils puissent nous donner un coup de main ou nous aider sur la saison, en s'investissant vraiment, et puisqu'on est convaincu que c'est pas, même si on est spectateur, c'est pas une attitude aussi passive que ça, et que le spectacle, les spectateurs ont besoin ou peuvent avoir envie de s'investir aussi. Et puis, si c'est des jeunes qui s'investissent à nos côtés, c'est encore mieux.
Mercredi.
Cette semaine, je voudrais vous présenter l'espace extérieur de la recyclerie, ouvert au public depuis déjà un certain moment, et où on expose et on collecte donc des matériaux de la déconstruction. Qu'est-ce que c'est ? Je pense que vous le savez, mais c'est des fenêtres, des volets, des portes, tout objet qui provient des maisons qui sont ou en rénovation ou en démolition, qui arrivent donc à la recyclerie et qui peuvent vous servir pour des éléments de décoration ou pour carrément remplacer une fenêtre éventuellement à l'intérieur, extérieur chez vous. Je vous invite à venir découvrir cet espace pour qu'on puisse vous servir pour vos travaux.
La vie des pays au son de la pop et du rock en Aveyron. La vie des pays, CFM. Thank you. TFM à Villefranche, 90.2, 90.2.
Bonjour, Elie-Jean. Alors, vous êtes l'animatrice du programme local de prévention des déchets. C'est quoi donc? On va en parler dans un instant. Vous avez été embauchée par la communauté de communes du Villefranchois et celle du canton de Najac pour réduire les déchets. Et votre mission à vous, et c'est la nôtre également, c'est la réduction de 7% des déchets sur les 5 prochaines années. Facile, voilà. Les doigts dans le nez, tranquille.
Je ne suis pas sûre. Oui, alors c'est 7% en 5 ans, donc pour expliquer peut-être un petit peu ce programme, donc la première année va être consacrée à faire un diagnostic, c'est-à-dire qu'on va essayer un petit peu d'analyser notre production de déchets sur le territoire, quel type de déchets, combien est-ce qu'on en produit, etc., pour pouvoir décider d'actions qu'on va mettre en place durant les 4 prochaines années.
Actuellement, une autre de vos missions, c'est de rechercher des foyers de témoins pour justement être dans ce diagnostic et voir comment, un petit peu plus tard, mettre en place des actions pour obtenir ces 7% de réduction de déchets. Quel profil il faut avoir pour participer à cette opération? On a vu des affiches « Wanted ». Oula, il y a une rançon, peut-être qu'on gagne quelque chose à faire foyer témoin.
Au niveau de l'environnement, c'est vrai qu'il y a tout à gagner. Alors, qui peut y participer? Absolument tout le monde. C'est le monsieur tout le monde, la madame tout le monde, personne avec enfants, sans enfants, personnes âgées.
C'est même mieux peut-être pour vous d'avoir une diversité.
Et oui, au contraire. Oui. Mmh. On aimerait aussi des personnes habitant plutôt le centre-ville de Villefranche, avec peut-être moins de possibilités pour faire du compostage, etc. Des personnes au contraire habitant plutôt le milieu rural. Et voilà, ça touche vraiment tout le monde.
Alors, 3 mois de test, ce test va consister en quoi avec ces familles? Qu'est-ce que vous allez leur demander?
Durant le premier mois, de peser leur sac poubelle sans rien changer à leurs habitudes. Et ensuite, pendant les 2 mois suivants, on va leur demander d'adopter 3-4 gestes de prévention, donc parmi une liste d'une dizaine de gestes. Donc ça peut être faire du compostage, mettre le stop pub sur la boîte aux lettres, adopter des gestes comme faire ses yaourts. Les plus motivés pourront peut-être essayer de se lancer dans les couches lavables. Enfin voilà, tout un tas de gestes.
Et la fabrication de couches lavables.
Non.
Non, on les achète.
Et donc on va leur demander de repeser leurs déchets comme ils l'avaient fait le premier mois. Et à la fin, on comparera de combien est-ce qu'ils ont pu réduire en adoptant ces petits gestes simples.
Jeudi.
CFM, le Villefranchois, un journal, une semaine, un autre regard. Le Villefranchois, l'info du Quercy et du Rouergue. En kiosque, tous les jeudis.
On commence avec l'info de la semaine.
L'information de la semaine, nous la consacrons à la nouvelle présentation du magasin Hyper-U qui est en cours de travaux. Hein. Si vous êtes passé à proximité de cette grande surface installée sur l'avenue, sur la route de Toulouse, eh bien vous n'avez pu ignorer que d'importants travaux y sont menés. Muriel Delperrier, donc à la tête de cette grande surface, a décidé de la moderniser, de la faire entrer dans une nouvelle génération avec une réorganisation complète de l'intérieur du magasin et un agrandissement qui va faire passer la surface de vente de 2700 à 4000 m² avec un meilleur confort pour la circulation entre les différents rayons, une réorganisation complète, donc je l'ai dit, avec notamment le changement de tout ce qui concerne le froid et le surgelé. Bref, un projet que Muriel Delperrier n'a pas tenu à chiffrer, mais qui est vraiment un gros projet qui remet à niveau, on va dire, cette grande surface qui a déjà une trentaine d'années, même si plusieurs campagnes de rénovation avaient déjà été réalisées. Aujourd'hui, Hyper-U décide de se mettre à la page et d'entrer dans une nouvelle génération. Une nouvelle génération également incarnée par Bertrand Delperrier et son cousin Jean Davé, qui ont vraiment beaucoup travaillé sur ce projet de rénovation et de réhabilitation d'Hyper-U. Voilà, nous présentons le projet, notamment avec les premières images de ce que deviendra Hyper-U dans quelques mois, puisque maintenant, les travaux qui ont commencé devraient s'achever pour le début d'année prochaine.
Vous venez juste de nous rejoindre. Éric Lachon est en studio, journaliste au Villefranchois. On en est à l'info des cantons et on parle de réduction des déchets depuis deux semaines maintenant avec Élise Jean qui a été tout récemment embauchée par la communauté de communes du Villefranchois, le canton de Najac également.
Tout à fait. L'heure est au respect de l'environnement et puis aux tentatives, aux innovations dans le domaine de la réduction des déchets. Pour cela, la communauté de communes du Villefranchois et la communauté de communes de Najac ont mutualisé leurs efforts pour embaucher Élise Jean, donc une chargée de mission spécifiquement affecté à la réduction des déchets. Alors, il faut savoir qu'il y a un programme qui a été lancé au niveau national et qui est financé en partie par l'ADEME pour réduire les déchets de 7% sur 5 ans. Alors, réduire les déchets, ça veut dire quoi ? Ça veut dire d'abord trier ce qui peut l'être, c'est-à-dire bien répartir les poubelles, mais une fois qu'on a réparti, on n'a pas fait varier d'un gramme leur masse. Hein. Donc il faut, pour réduire les déchets, produire moins de déchets. Pour produire moins de déchets, ça veut dire privilégier des produits où les emballages sont moins importants. Ça veut dire aussi utiliser notamment le compostage. Postage qui permet notamment d'extraire des poubelles tout ce qui est déchets organiques pour en faire du compost.
La vie des pays en Aveyron. La vie des pays. CFM.